Bonsoir, chers radiophiles de C'est Félix, la radio pas pire pantoute, et bienvenue à une nouvelle émission de Chansons de circonstance. Ici Steve Bergeron au microphone et Fabrice Cuvillier à la mise en onde, tous les deux fin prêts pour un nouveau rendez-vous de chansons liées aux différents anniversaires, éphémérides et fêtes de calendrier. Parlant de fêtes, nous en avons une grosse cette semaine, l'Halloween. L'an dernier, je m'étais attardé sur l'origine de cette fête, mais aujourd'hui, je vais vous jaser de quelques-unes des créatures associées à l'Halloween. Ce sera au programme de notre deuxième demi-heure. Et puis, on a tendance à l'oublier, mais deux jours après l'Halloween, c'est le jour des morts, le 2 novembre. Mais j'ignore pourquoi on célèbre pas mal moins que le 31 octobre, à moins que vous soyez au Mexique pour le Día de los Muertos, une des plus grosses fêtes de l'année là-bas. Je vous ai donc préparé un segment d'émission là-dessus, mais je vous rassure, ça ne sera pas déprimant du tout. Nous allons aussi nous remémorer une Halloween qui n'avait pas été très agréable pour plusieurs Montréalais. Il y a 50 ans, s'amorçait le Week-end Rouge, une grève illégale des pompiers qui a duré 3 jours, au cours de laquelle une vingtaine d'incendies ont détruit des dizaines d'édifices. Mais d'abord, il y a 75 ans, le 28 octobre 1949, le vol 009 d'Air France entre Paris et New York s'écrasait sur une des îles de l'archipel des Açores. Aucun des 48 passagers et membres d'équipage n'a survécu. L'accident a vraisemblablement été causé par une erreur de navigation, le pilote ayant tenté d'atterrir sur la mauvaise île et ayant percuté un pic alors qu'il était en vol contrôlé. Parmi les victimes, le boxeur Marcel Cerdan, qui s'en allait rejoindre son amoureuse Edith Piaf aux États-Unis. C'est d'ailleurs à la demande de Piaf qu'il avait décidé de faire le trajet en avion plutôt qu'en bateau. Le hasard veut que ce soit en 1949 qu'Edith Piaf ait ajouté l'hymne à l'amour à son répertoire, un texte qu'elle a signé en pensant à son amoureux, sur une musique de Marguerite Monod. Elle l'aurait chanté pour la première fois sur scène à New York 6 semaines avant la tragédie, et on raconte qu'elle a même repris en spectacle le soir de la mort de Cerdan, malgré sa douleur. Et si vous êtes un fidèle auditeur de chansons de circonstance, vous vous rappelez peut-être que nous avons fait jouer l'hymne à l'amour par Edith Piaf le 12 février, juste avant la Saint-Valentin. J'avais retrouvé un sondage sur les plus belles chansons d'amour, publié dans la Tribune en 2005, et c'était cette chanson qui est arrivée en première place. Je me suis donc dit que pour la circonstance, ce serait intéressant de vous offrir une autre interprétation. Et là, je me suis demandé, mais quelle version pourrais-je bien prendre cette fois-ci? Pas facile, il y en a tellement. Je n'avais donc aucune idée de laquelle je pourrais faire jouer, mais après des heures et des heures de réflexion, je me suis résigné à une prestation en concert que presque personne n'a vue ni entendue par une chanteuse quasiment anonyme. Ça veut peut-être dire quelque chose à quelques-uns d'entre vous. On verra bien. En souvenir de Marcel Cerdan et d'Edith Piaf, on écoute donc l'hymne à l'amour.
La brasserie de Marcel Cerdan à Casablanca est fermée. Le grand champion n'est plus. Il gagna sa renommée dès ses premiers matchs au Maroc. Acceptant toujours la bataille, il l'a terminée d'un geste sec. Sur tous les rings du monde, il fut un grand vainqueur. Après 113 combats, sans avoir connu une seule défaite régulière, Marcel Cerdan signait le match pour le titre de champion du monde.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. De ma part, les problèmes, mon amour, puisque tu j'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, que m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on sait.
Ici Steve Bergeron, vous êtes de retour à Chansons de circonstance et vous venez d'entendre Céline Dion vous interpréter l'hymne à l'amour lors de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Et non, ce n'est pas un repiquage sur Internet, l'enregistrement est offert sur iTunes depuis 2 semaines, donc garochez-vous si vous êtes un fan fini. Maintenant, poursuivons un peu dans la même veine avec un intéressant sujet, la mort. Bon, il y en a peut-être qui vont changer de poste, mais bon, ça correspond au concept de l'émission et que voulez-vous, le jour des morts tombe samedi. Mais c'est quand même ironique qu'en ce moment, au cinéma, il y a plein de films d'horreur où des gens crèvent d'une manière horrible, mais dès qu'on parle de la vraie affaire, tout le monde se met les mains sur les oreilles et fait des « la 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 ». Malheureusement, je trouve que c'est pire aujourd'hui. Je donne souvent comme exemple une chanson de Julie Masse qui avait beaucoup tourné à la radio en 91. Le titre était « Sans t'oublier ». C'était l'histoire d'une adolescente qui perd sa meilleure amie. C'était inspiré d'un fait réel car Julie Masse a en effet perdu un ami proche au secondaire à la suite d'un accident d'autobus. Et je me souviens que cette chanson jouait à des heures de grande écoute sur des réseaux grand public, alors qu'aujourd'hui, ça ne se ferait jamais. Mais le rapport à la mort est vraiment une affaire de culture. Vous avez sûrement déjà vu des images du Dia de los Muertos au Mexique. Les cimetières croulent sous les fleurs, les tombes ont l'air de gâteaux de mariage. En 2017, Disney a lancé le film Coco, qui plonge en plein dans cette coutume. Et en 2019, il y a un film québécois intitulé Apapacho qui est sorti en salle. Si je vous en parle, c'est notamment parce qu'il a été tourné en partie à Sherbrooke, même si l'essentiel de l'histoire se déroule au Mexique. C'est l'histoire de 3 sœurs. Fanny Mallette incarne l'aînée et Laurence Leboeuf, la Benjamine, et tous deux se retrouvent au Mexique après le décès soudain de la sœur du milieu. Le film est ponctué de retours en arrière quand elles étaient jeunes, dans la maison familiale, et ces scènes ont été tournées à Lennoxville en novembre 2018. Le film est une réalisation de Marquise Lepage. Ce n'est pas un grand film, mais le thème, celui du deuil et des façons de le vivre, demeure très pertinent. Vous pouvez d'ailleurs le visionner tout à fait gratuitement sur le site de TV5 et Unitv. Et puis, il n'y a pas qu'au Mexique qu'on compose mieux avec la mort qu'ici. Les Africains ont beaucoup à nous apprendre à ce sujet. Le chanteur Sébastien Lacombe m'en a fait prendre conscience dans une entrevue pour la sortie de son album « Nous serons des milliers » en 2016. La dernière chanson, intitulée « Lisa », est dédiée à sa mère décédée, et au départ, ça devait être une chanson très triste. Sauf qu'il a un jour réalisé que sa mère aurait probablement été très fâchée parce que c'était une femme enjouée et colorée qui mordait dans la vie. Et au début des années 2010, Sébastien est parti avec sa famille vivre un an au Sénégal. C'est là qu'il a pris conscience que, étant donné l'espérance de vie plus courte en Afrique, c'est dans la norme de perdre ses parents jeunes. Et si les musiciens africains écrivaient des chansons tristes chaque fois qu'ils perdent un parent, ce serait la dépression à longueur d'année. À son retour à Montréal, Sébastien Lacombe s'est beaucoup rapproché de la communauté de musiciens africains, dont le Congolais Lionel Kizaba. Et quand il l'a entendu chanter sur ses parents disparus, il l'a invité à écrire avec lui. Et de cette nouvelle chanson, a dit Sébastien, sa mère serait très contente. Et puis, je vais également vous faire jouer une pièce qui est devenue un classique des funérailles, à peu près dans les mêmes années où « On va s'aimer encore » de Vincent Vallière est devenue la favorite des mariages. Il y a « Je redeviens le vent » de Martin Léon, qui est devenue la chanson privilégiée des cérémonies d'adieu. C'est la dernière de l'excellent album « Les atomes » paru en 2010. Si vous ne l'avez jamais entendu, vous allez voir, c'est tout sauf larmoyant. Et qui sait, peut-être que vous allez trouver la chanson que vous voudrez qu'on fasse jouer à vos propres funérailles. Mais d'abord, Sébastien Lacombe et Lisa.
T'es parti beaucoup trop tôt, Lisa. Je n'ai jamais pu te dire au revoir,
Lisa.
Mais tu sais que je pense à toi tout le temps. Au-delà des étoiles, je sais que tu es là. Au-delà des étoiles, je sais que tu es là. T'es toujours dans mon cœur,
Lisa.
Nasala Boninga, Lisa, eh oh. Nasala Boninga, Lisa, eh oh. Nasala Boninga, Lisa, eh. Nasala Boninga, Lisa, eh. Toujours dans mon cœur,
Lisa,
oh, toujours dans mon cœur,
Lisa,
t'es toujours dans mon cœur,
Lisa,
oh, t'es toujours dans mon cœur,
Lisa,
Otsikinga seboye Lisa, mama zonga, Otsikinga seboye nana salaboni yo, Banyanga langa. Ba mama oya bango oya na Lisa okay wa yo Lisa
Lisa
toujours dans mon cœur
Lisa
oh toujours dans mon cœur
Lisa
toujours dans mon cœur
Lisa
oh toujours dans mon cœur. Au-delà des étoiles, je sais que tu es là,
Lisa.
Au-delà des étoiles, je sais que tu es là,
Lisa.
Otsikinga seboye Lisa, mama zonga. Otsikinga seboye nasala bolingo. Banyanga langa na ba mama oya bango oya na Lisa. Okay, iwa bio Lisa,
Lisa
eh. Toujours dans mon cœur, Lisa oh. Toujours dans mon cœur,
ça la bonne gars.
Isa est toujours dans mon cœur. Isa oh, toujours dans mon cœur.
Isa, Isa, Isa.
Isa, Isa,
Isa.
Isa,
Isa,
Isa.
Isa, Isa,
Isa.
Isa, Isa, Isa. Isa, Isa,
Isa. Isa, Isa,
Isa. Isa,
Lisa, Lisa, Lisa.
J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis, sans nous désunir. J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui, je deviens souvenir. Je redeviens le vent. Je fais voler l'oiseau, je fais chanter l'océan. Invisible à nouveau, j'habiterai le printemps. Dorénavant, j'ai quitté mon labour, ma peau, mon sang, je redeviens le vent. Ce ne fut qu'un court instant. Je redeviens le vent.
Steve Bergeron, vous êtes de retour à Chanson de circonstance. Si la chanson de Martin Léon vous a plu, Fred Pellerin en a aussi enregistré une version sur son album Après, paru en 2018. Elle figure aussi sur l'album du spectacle Un village en 3D, lancé l'année suivante. Maintenant, l'événement dont je vais vous parler n'a heureusement fait aucun mort, parce que ça aurait pu, mais les dommages matériels se sont chiffrés en millions. Je vous parle du Week-end Rouge, du 31 octobre au 3 novembre 1974, il y a donc 50 ans. La cause, une grève illégale des 2400 pompiers de Montréal, pendant laquelle 18 incendies se sont déclarés, dont certains criminels. Ce sont donc les cadres du service d'incendie qui ont répondu à l'appel avec leurs camions et leurs lances. Les pompiers des villes environnantes sont aussi venus prêter main-forte, et même de simples citoyens. Malgré tout, 75 édifices ont été totalement détruits, surtout dans le quartier Centre-Sud. On parle même d'un quadrilatère entier réduit en cendres, celui entre les rues Sherbrooke, Wolfe, Amherst, aujourd'hui rebaptisé Atateken, et le Square Amherst. Si vous connaissez un peu Montréal, c'était le pâté de maison situé derrière le marché Saint-Jacques. D'ailleurs, c'est à cause du Week-end Rouge si ce quartier est maintenant parsemé de petits parcs au beau milieu des rangées de maisons. Plusieurs ont été aménagés sur les sites des bâtiments détruits. D'ailleurs, il y aura le 2 novembre un concert commémoratif qui se déroulera en partie dans un de ces parcs, l'espace Pierre Bourgault. La deuxième partie aura lieu à l'église du Sacré-Cœur de Jésus, où plusieurs des 200 familles jetées à la rue se sont réfugiées lors des événements. Quant au conflit entre la ville de Montréal et ses pompiers, il s'est réglé dans la nuit du 2 au 3 novembre 1974 dans le bureau montréalais du premier ministre Robert Bourassa, car c'est grâce à une aide gouvernementale si la ville a pu accorder aux pompiers des hausses salariales couvrant l'inflation. Cela dit, l'Association des pompiers de Montréal a été obligée de verser 1 million de dollars d'indemnité aux victimes du Week-end Rouge. Maintenant, est-ce qu'après des chansons pas tristes sur la mort, je vous ai préparé des chansons joyeuses sur des villes qui brûlent? En fait, dans les deux pièces à venir, l'incendie urbain sert de métaphore aux amours, aussi bien un amour qui se termine qu'un amour qui commence. Celle de David Marin s'intitule « Hélas Vegas » et c'est la pièce-titre de son troisième album paru en 2018. Un excellent album. Je vous le conseille fortement. Moi, ça a été mon meilleur disque québécois cette année-là. Et dans le texte, David Marin mentionne deux fois que « dehors, la ville brûle », mais heureusement, à l'intérieur, il y a l'amour, ultime refuge contre les catastrophes qui secouent le monde extérieur. Quant à l'autre, c'est la chanson d'ouverture de « La nuit dérobée », album du groupe rock Les Chiens, dont on connaît bien le leader Éric Goulet. Et ça aussi, c'est un autre excellent album paru en 2000. Et c'est un disque que Vincent Vallière avait beaucoup aimé aussi, ce qui lui avait donné le goût de travailler avec Éric Goulet, qui a finalement réalisé le deuxième album de Vincent, Bordel ambiant, et co-réalisé les deux suivants, chacun dans son espace et le repère tranquille. Et dans la chanson que vous allez entendre, le personnage se réveille en croyant que la ville est la proie des flammes, mais il s'aperçoit que ce sont plutôt ses amours qui brûlent. On écoute donc « La ville en feu ».
Thank you. souris comme ça quand tu te réveilles dans mes bras. Vois-tu quelque chose que je vois pas? Un espoir.
Thank you.
Ici c'est Bergeron au microphone, en compagnie de Fabrice Cuvillier à la mise en onde. Vous écoutez Chansons de circonstance à l'antenne de Céphélix, la radio pas pire pantoute, et vous venez d'entendre le thème d'ouverture du film Beetlejuice de Tim Burton, l'original de 1988 et non la suite sortie cette année, 36 ans plus tard. La musique est signée Danny Elfman, qui a composé d'innombrables trames sonores pour le cinéma et la télé, mais la plus connue, ce sera toujours le générique des Simpsons. Et je trouvais que c'était la musique idéale, pas trop lugubre, juste assez inquiétante, pour amorcer notre deuxième demi-heure consacrée à l'Halloween, plus précisément aux créatures associées à cette fête. Et nous allons commencer avec le chat noir. Vous savez peut-être qu'il y a une journée mondiale des chats. Non, ce n'est pas le 15 août, la miaou, comme le dit la chanson, mais le 8 août. Par contre, saviez-vous qu'il y a une journée mondiale spécifique pour le chat noir, le 17 août? Elle a vu le jour en 2011 aux États-Unis et elle est l'initiative de Wayne Morris, un artiste new-yorkais, qui l'a instaurée parce que son père refusait que sa fille, donc la sœur de Wayne Morris, laisse entrer son chat noir dans la maison paternelle. Morris était déjà un ardent défenseur des animaux et il a ainsi consacré les dernières années de sa vie, il est malheureusement décédé en 2022, à combattre les superstitions et préjugés qui persistent envers le chat noir. Son idée a fait boule de neige puisque cette journée mondiale a été adoptée dans plusieurs pays, sauf au Royaume-Uni où il existe une journée similaire le 27 octobre. Elle aussi a été instaurée en 2011 par un organisme du nom de Cats Protection. Pourtant, dans ce pays, le chat noir n'est pas forcément porteur de malchance. Au contraire, pour nombre de Britanniques, c'est un heureux présage. En Écosse, rencontrer un chat noir annonce la prospérité. Pour plusieurs marins, en avoir un à bord éloignait les tempêtes, et les épouses de pêcheurs en gardaient un à la maison pour s'assurer que leur mari revienne de la haute mer. Hélas, des études ont révélé que même au Royaume-Uni, les chats noirs sont plus nombreux dans les refuges pour animaux et qu'ils y restent en moyenne 7 jours de plus que les autres chats avant d'être adoptés. Statistiquement, c'est un peu normal qu'il y ait plus de chats noirs parce que c'est la couleur la plus répandue chez cet animal. Par contre, les superstitions datant du Moyen Âge ont la couenne dure. Mais on voit aussi émerger des réticences modernes aux chats noirs, par exemple, la difficulté de les prendre en photo. Vous trouverez d'ailleurs sur YouTube des tutoriels pour apprendre à bien photographier son chat noir. Mais comment est-on passé d'un animal qui était vénéré, voire déifié dans l'ancienne Égypte, à un animal détesté, pourchassé et abattu au Moyen Âge? Tout porte à croire que c'est la faute du pape Grégoire IX. En 1233, ce pape est le premier à avoir émis une bulle pontificale, c'est-à-dire un texte ecclésiastique officiel, qui affirmait la réalité de cérémonies maléfiques secrètes avec la participation du diable. Et dans cette bulle, intitulée Vox in Rama, le pape affirme que les hérétiques se livraient à des orgies, suivies d'un banquet présidé par un chat noir aussi gros qu'un chien de taille moyenne. Bref, une bulle pontificale qui a plutôt les allures d'une bulle au cerveau, mais c'est de là que l'idée du chat noir maléfique s'est infiltrée dans l'imaginaire collectif. Par la suite, on a associé le chat noir aux sorcières, on a même adopté un rituel où on les enfermait dans un sac que l'on jetait dans le feu à la Saint-Jean. Certaines sources affirment également que c'est la chasse au chat noir, parallèlement à la chasse aux sorcières, qui a causé l'épidémie de peste noire au 14e siècle, parce que les rats avaient moins de prédateurs, mais impossible de le prouver. Ce qui est sûr, c'est que la couleur du pelage d'un chat n'a rien à voir avec son caractère. Mais allez donc convaincre une personne superstitieuse. Personnellement, je viens d'une famille qui a eu une longue histoire de chats noirs, au moins 6 ou 7 sont passés dans notre vie, et la prochaine chanson est en quelque sorte dédiée à leur mémoire, surtout qu'il y en a un qui est mort récemment. Vous savez, quand on est un enfant et que nos chats meurent ou disparaissent sans revenir, on s'en fout de sa couleur, on a le cœur brisé. Et quand on est adulte, on s'aperçoit que ce n'est pas moins douloureux. Alors, en guise de réconfort, voici une chanson qui nous raconte que l'âme du chat noir passe dans le vent d'automne, juste avant l'arrivée de la neige. On écoute donc « Le chat noir » par Jean-Louis Murat.
Pris dans le vent, passe son âme, passe son âme. Le chat noir pris dans le vent, passe sa vie en cabriolant. car en bas dans la folie du vent, courbe la tête, courbe la tête. Car en bas dans la folie du vent, courbe la tête en cabriolant. Pas l'hiver, que fais-tu du printemps? Chat ironique, passe, passe vite. Pas l'hiver, que fais-tu du printemps? Quand passe la neige en tourbillon. Au miroir où rêve l'enfant, la nuit s'agite, maman vient vite. Au miroir où rêve l'enfant, passe le chat en tourbillon. L'espoir relaisse au printemps, chanter la grive, passer le givre. Que l'espoir relaisse au printemps, passer la neige en tourbillonnant. Le chat noir pris dans le vent, passe son âme, passe son âme. Le chat noir pris dans le vent, passe sa vie en cabriolant. Cher amour, prise dans le vent, passe nos âmes, passe nos âmes. Cher amour, prise dans le vent, passe nos vies en tourbillonnant.
Ici Steve Bergeron, vous êtes de retour à Chanson de circonstance. Tout de suite après Jean-Louis Murat, vous avez pu entendre Joran nous chanter Ghost, pièce d'ouverture de son album 16 mm, paru en 2000. Si vous connaissez Joran, vous savez qu'elle se sert souvent de sa voix comme un instrument de musique. Et je trouve qu'avec cette pièce, elle a vraiment réussi à recréer une atmosphère fantomatique, surtout avec les silences, ce qui ramène à la peur primaire parce que c'est dans le silence qu'on commence à entendre des bruits inexpliqués. Et Ghost est le genre de chanson qui joue rarement à la radio parce que la radio n'aime pas les silences. Mais dans une radio communautaire, heureusement, on s'en permet un peu plus. Vous comprendrez que je vais vous jaser brièvement des fantômes, surtout sur notre niveau de croyance. Selon un sondage publié l'an dernier par l'Institut français d'opinion publique, qui est un peu l'équivalent de notre firme Léger et Léger ici, la croyance aux fantômes, alors qu'on pourrait la croire en baisse, ne cesse d'augmenter depuis 40 ans. Et ce sont nos voisins américains qui semblent les plus crédules. Entre 1978 et 2023, la croyance aux fantômes est passée de 11 à 46 %. Alors qu'en France, elle est passée de 5 % en 82 à 24 % en 2023. Quant au Canada, un sondage mené en 2019 par la firme Polara Strategic Insights concluait que la croyance aux fantômes se situait à 27 %. Est-ce dire qu'on assiste à un retour de l'irrationnel en Occident? Il faut dire que la croyance aux fantômes est également un phénomène hautement culturel et dans certains pays, comme la Thaïlande, elle est presque généralisée. Et ce sont la plupart du temps nos convictions religieuses les grandes coupables. Comme la plupart des religions parlent d'une vie après la mort, elles ouvrent la porte à la possibilité d'âmes qui ne seraient pas en paix et reviendraient sur les lieux où elles ont vécu. On trouve ainsi des écrits sur les fantômes dès l'Égypte ancienne. Une chose est certaine, les histoires de fantômes nous fascinent, et je vais terminer par une citation de la marquise du Deffand qui a vécu dans le Paris du 18e siècle. Ces mots sont souvent tournés en ridicule, mais ils ont un gros fond de vérité. Quand on lui a demandé si elle croyait aux fantômes, elle a répondu « Non, mais ils me font peur ». On écoute maintenant Thomas Fersen et sa chanson « Les loups-garous ».
Je menais une vie honorable, sans un remous, sans un frisson, avec un peignoir sur le râble et au pied une paire de chaussons. Par une rare conjonction entre Vénus, Mars et Saturne, mordu par un chien taciturne, j'avais reçu l'extrême onction. Je n'allais pas passer la nuit et je faisais une drôle de tête, mais sur les 12 coups de minuit, j'ai repris du poil de la bête. J'ai déterré ma vie de garçon, la terre était légère et meuble. Ma pioche en rencontrant le meuble a rendu un lugubre son. Quand la nuit tombe sur la ville, je renfile ma vieille peau de loup-garou pleine de trous. Les poules se sont mises à brailler comme quand le renard les dérange. Quand j'ai pris l'auto dans la grange qui leur servait de poulailler, j'avais pas touché un klaxon ni démarré ce tas de ferraille. Depuis les fameuses funérailles, j'étais pas sorti de mon caisson. Quand la nuit tombe sur la ville, je renfile ma vieille perruque de loup-garou pleine de poux et des chaussures de loup-garou pleines de boue. Qu'est-ce que j'entends? Une voix me résonne. Tu n'as plus 20 ans et tes tempes grisonnent. Tu t'en vas courir la gueuse comme un jeune homme. J'ai roulé à tombeau ouvert, et tant pis pour les hérissons qui viennent se mettre en travers. J'ai déterré ma vie de garçon, j'ai déterré ma vie de garçon. La terre était légère, aimable. Ma pioche en rencontrant le meuble a rendu un lugubre son. Quand la nuit tombe sur la ville, je renfile ma vieille pelure de loup-garou pleine de trous. J'avais pour éteindre l'amour déverser le sable des jours. Et malgré tout ce Sahara, je n'ai pu oublier Sarah. Ses cheveux blonds comme pépites qui lui descendaient dans le dos. Je n'en croyais pas mes orbites en voyant cet Eldorado. Elle déterrait sa vie de jeune fille, je déterrais ma vie de garçon. Ensemble on est parti en vrille, les morts sont de grands polissons. Quand la nuit tombe sur la ville, on enfile nos vieilles peaux de loup-garou pleines de trous. Quand la nuit tombe sur la ville, on enfile nos vieilles pelisses de loup-garou pleines de trous. Nos vieilles perruques de loup-garou pleines de poux. Nos vieilles chaussures de loup-garou pleines de boue.
Ici c'est Bergeron, vous êtes de retour à Chansons de circonstance. Et oui, c'était encore du Thomas Fersen, une chanson de son album « Je suis au paradis » paru en 2011, le disque parfait pour l'Halloween. Vous aurez deviné que nous allons terminer cette émission avec les loups-garous, ou si vous préférez les lycanthropes, parce qu'il y a beaucoup à départager à propos de cette légende, et aussi parce qu'il existe une véritable lycanthropie clinique, très rare, mais dont on relate quelques cas au fil de l'histoire, dont le plus récent remonte à 2016 aux États-Unis. Il s'agit d'une forme de psychose, celle de se prendre pour un loup ou un autre animal. Et malheureusement, comme en 2016, la lycanthropie clinique peut conduire au meurtre. Mais la lycanthropie qui nous préoccupe est une croyance dont on arrive difficilement à retracer les origines et les raisons. On pense qu'elle nous vient de l'Europe, les premiers récits étant recensés dans la mythologie grecque. Il y a aussi le fait que le loup a longtemps été un prédateur de l'homme, jusqu'à la fin du Moyen Âge, et qu'il a aussi exercé une forme de fascination parce qu'il représentait à la fois la cruauté, la force animale et la liberté. Aujourd'hui, la plupart des gens ont une vision des loups-garous correspondant à celle du cinéma américain. Un homme ou une femme se transformant en loup à la pleine lune, assoiffé d'une rage meurtrière et que l'on peut tuer avec une balle en argent. Ce mauvais sort lui vient d'une morsure ou du coup de griffe d'un loup ou d'un autre loup-garou. Quant à la vulnérabilité aux balles d'argent, elle serait apparue au 19e siècle. Elle provient du roman « La bête du Gévaudan » de l'écrivain Élie Berthet, inspiré de la fameuse affaire du même nom, soit une centaine d'attaques, la plupart mortelles, par un ou des canidés non identifiés dans la région du Gévaudan en France entre 1764 et 1767. Mais au Québec, la légende du loup-garou était fortement liée à la religion. Parce qu'un loup-garou était une personne qui n'était pas allée à la confesse et qui n'avait pas fait ses Pâques pendant 7 ans. Mais elle ne se transformait pas forcément en loup. Le plus souvent, elle empruntait la forme d'un chien, mais ça pouvait aussi être un veau, un bœuf, un cochon, un chat et même un hibou. Elle ne devenait pas forcément sanguinaire, mais elle était condamnée à errer dans la campagne. Le sortilège se manifestait la nuit, mais pas forcément à la pleine lune. Et il pouvait se reproduire jusqu'à 101 jours de suite. Pour briser le sort, il fallait que quelqu'un reconnaisse la personne pendant sa métamorphose et réussisse à prélever son sang. C'est pour cette raison que nous allons terminer cette émission en musique traditionnelle. Nous allons d'abord entendre la chanson « Loup-garou par le vent du Nord », extrait de l'album « Têtu » paru en 2015 et relatant une histoire plus près de la tradition québécoise. Et elle sera suivie par une pièce de Michel Faubert, provenant de l'album « La fin du monde » paru en 2008. C'est un album pour lequel Michel a tenté un mariage entre trad et électro avec l'aide de l'auteur-compositeur Jérôme Minière, et le résultat est vraiment réussi. La pièce s'intitule « Le diable d'Amérique » et Michel y énumère toute une série de légendes traditionnelles et urbaines. Une façon de démontrer que les légendes d'aujourd'hui sont de simples variantes du passé et aussi de rappeler que derrière toutes les histoires d'horreur qu'on se raconte à l'Halloween, il y a le diable, Lucifer ou Belzébuth. Peu importe la façon dont on le nomme, il reste avant tout le nom qu'on donne au côté noir de l'être humain. C'est là-dessus que se termine Chanson de circonstance aujourd'hui. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à Fabrice Cuvillier pour la mise en onde, le montage musical et les balados. Je vous rappelle que nous sommes en rediffusion le vendredi à midi et que notre balado se trouve au cfélix.qc.ca. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres chansons de circonstance et je vous laisse en compagnie du Vent du Nord et de leur chanson « Loup-garou ».
jeune homme mystérieux, sauf sous la lune, il sentait peu.
Sauf sous la lune, il sentait peu.
Habillé comme un miséreux, errait la nuit, le regard creux. Depuis qu'un soir d'éclair de lune a disparu sa bien-aimée,
a disparu sa bien-aimée.
Après une veille de coutume à se disputer avec le curé,
à se disputer avec le curé.
Ne croyant ni tiant ni Dieu, sautait ses portes sans se confesser. Franciscains et la papauté servent des royaumes bien éloignés. Pour soir à table, les religions, ça prend des loups, puis des boutons, ça prend des loups, puis des boutons. Se transformant en séquestré d'éternité,
en séquestré d'éternité.
On retrouva chez lui des os, ceux de sa femme étaient du lot.
Ceux de sa femme étaient du lot.
Bien malgré lui, ensorcelé, ce loup-garou en liberté. La chasse à court dépareillée,
la chasse à court dépareillée.
On chassa l'homme loin du comté, mais la bête elle s'est réfugiée. Franciscains et la papauté servent des royaumes bien éloignés. Pour soi rentable, les religions, ça prend des loups, puis des moutons, ça prend des loups, puis des moutons.
Prescrit un médicament qui rallonge la vie? Avez-vous entendu parler d'un mystérieux psychologue qui sème la zizanie dans l'entourage de ses patients? Avez-vous entendu parler de femmes disparues après avoir dansé avec un inconnu? Avez-vous entendu parler de personnes qui auraient pris feu spontanément et qui se seraient consumées? Avez-vous entendu parler d'une chanson si triste qu'elle pousse au suicide et qui a été interdite? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique? entendu parler d'un service funèbre chanté pour un animal, tel un bœuf ou un chien? Avez-vous entendu parler d'une mouche ensorcelée qu'on dissimule dans le manche d'un outil pour en améliorer le rendement? Avez-vous entendu parler d'un chat qui veut tuer son maître, cette fois par nuit, et s'y ravise? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique? De maisons maudites dont les murs ne peuvent être peints, nettoyés ou tapissés? Avez-vous entendu parler d'un laboureur pétrifié ou enseveli parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter? Avez-vous entendu parler d'un moine autostoppeur qu'il faudrait mieux ne jamais faire monter à bord de son véhicule? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique?
Thank you.